Vous écoutez On lit pour vous.
La musique comme thérapie. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 7 septembre 2025 dans la presse. Quand on entend de la musique, souvent, on a envie de danser. Une nouvelle étude montréalaise montre que ce lien entre l'ouïe et le reste du corps a des conséquences profondes pour le cerveau et confirme que la musique pourrait servir à traiter plusieurs troubles neurocognitifs. Rythme. Depuis quelques années, les effets de la musique sur le cerveau suscitent de plus en plus de recherches. Des études ont montré que les régions du cerveau responsables de l'audition et des mouvements sont liées, ce qui explique pourquoi on danse quand on écoute de la musique. Caroline Palmer vient de pousser encore plus loin cette compréhension neuronale de la musique. Nous montrons que les oscillations des neurones dans le cerveau se synchronisent avec le rythme de la musique, explique la neuroscientifique de l'Université McGill qui présentait ses résultats ce printemps dans la revue Nature Reviews Neuroscience. Les rythmes plus simples sont plus faciles pour le cerveau à reproduire. C'est ce qui explique pourquoi certains genres musicaux sont plus populaires. Les comptines d'enfants, par exemple, ont des rythmes simples qui sont plus faciles à reproduire pour le cerveau. Ils provoquent des oscillations plus stables parmi les neurones. Benjamin Morillon, un neuroscientifique de l'Université d'Aix-Marseille en France, estime que la découverte de Mme Palmer aidera à mettre au point des approches de musicothérapie pour des troubles aussi divers que l'épilepsie, le Parkinson ou le bégaiement. Plus on comprend le cerveau, plus on pourra mettre au point des approches de musicothérapie basées sur des données probantes, indique M. Morillon, qui étudie la musicothérapie chez les patients épileptiques répondant mal aux médicaments. On peut considérer que le cerveau n'est pas qu'un espace de stockage de la mémoire, mais un endroit où les neurones sont toujours en mouvement, comme des danseurs. Les premiers résultats de M. Morillon laissent entrevoir qu'il serait possible avec la musique de réduire le nombre de crises épileptiques chez les patients réfractaires aux thérapies médicamenteuses. Parkinson. À l'Université de Montréal, le neuroscientifique Simone Dallabella étudie les implications cliniques de ces découvertes. Les différentes structures du cerveau sous-tendent le contrôle moteur, le mouvement. Donc, en principe, on peut utiliser le rythme musical pour aider au mouvement. Il a montré qu'il est possible d'aider un patient atteint du Parkinson à marcher en lui demandant de faire des pas au rythme d'un métronome. La rééducation après un accident vasculo-cérébral, AVC, et l'accompagnement pour les enfants atteints d'autisme, de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité ou de bégaiement est aussi possible. Le groupe de M. Dallabella est le premier à montrer un effet positif de la musicothérapie, dit-il. Il utilise des applications comme Beatworkers, disponibles sur les téléphones et tablettes, qui font gagner des points quand on tape sur la pulsation de la musique. Nous avons des versions des applications pour les populations avec des déficits. On a envoyé les tablettes numériques directement à la maison des enfants avec des troubles neurodéveloppementaux. Le but est de standardiser l'approche de musicothérapie pour qu'elle se fasse à la maison, ou alors qu'elle se fasse en groupe avec des protocoles déjà établis pour pouvoir réduire les coûts et élargir l'accès. On vise des petits groupes de 4 ou 5 personnes qui font de la percussion, dit-il. Montréal est à l'avant-scène des avancées cliniques en musicothérapie pour les troubles du cerveau, selon le chercheur d'origine italienne. Il est le co-directeur du Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, BRAHMS, selon l'acronyme anglais, mis sur pied par l'Université de Montréal et l'Université McGill pour étudier les fondements biologiques de l'expérience musicale. Le BRAHMS comporte plusieurs projets de recherche de thérapie musicale pour divers troubles. Mémoire et évolution. Les démences ne semblent pas affecter la mémoire musicale autant que les autres souvenirs. Il y a plein d'exemples de gens qui ont l'Alzheimer, mais se souviennent des paroles de chansons, illustre M. Morillon. C'est fascinant comme stimuli. On entend une chanson une fois et on s'en souvient très bien. On a tous eu l'expérience de poèmes qu'il fallait apprendre à l'école et on n'y arrivait pas. M. Morillon pense que la musique a été inventée par l'humain à cause de son ancrage facile et profond dans la mémoire. Les stimuli musicaux ont été optimisés au fil des millénaires pour s'ancrer dans nos systèmes mnésiques et émotionnels. Les oiseaux chantent et reconnaissent les chants d'autres individus, mais il s'agit d'un apprentissage figé. C'est une signature vocale pour les oiseaux. Ils n'apprennent pas à produire d'autres chants. La source de cette spécificité humaine, unique chez les animaux, est encore mystérieuse. En production de musique, on est les seuls, dit M. Morillon. Par contre, actuellement, il y a plein d'études qui étudient la perception des rythmes et la capacité de bouger sur des rythmes, de danser. Avant, on pensait que seuls les humains avaient un lien entre les systèmes auditifs et moteurs, et que c'était à cause de la présence du cortex pariétal entre les régions du cerveau responsables des systèmes auditifs et moteurs. Mais, finalement, on voit que l'otarie, le crocodile et certains primates ont la capacité de marquer des rythmes. Par exemple, des chercheurs du Mexique ont montré que les singes ne s'intéressent pas au rythme, mais que si on leur donne un incitatif, ils peuvent taper le tempo et suivre les variations. Alors, le cortex pariétal n'est peut-être pas si important. Du coup, on ne sait pas pourquoi seuls les humains produisent de la musique. Ce n'est pas parce qu'ils savent danser, en tout cas. Culture mineure et majeure. Certaines études montrent que les rythmes les plus populaires, donc les plus faciles à reproduire dans le cerveau, varient d'une culture à une autre, dit Mme Palmer. Est-ce que les travaux de la chercheuse de McGill expliquent pourquoi on associe généralement le mode majeur à des chansons plutôt gaies et le mode mineur à des chansons plutôt tristes? Les accords majeurs ont des fréquences qui sont plus faciles à reproduire pour le cerveau. C'est pour cette raison qu'ils sont plutôt associés aux chansons gaies, par exemple « Bonne fête », tandis que les accords mineurs sont plutôt associés à des musiques tristes, par exemple « Une marche funéraire ». En savoir plus. Source Journal of Fluency Disorders. 5% proportion des Américains qui souffrent de bégaiement durant l'enfance. 1% proportion des Américains qui souffrent de bégaiement à l'âge adulte. Source Parkinson Foundation. 4% proportion des cas de Parkinson diagnostiqués avant 50 ans. 12 500. Nombre de nouveaux diagnostics de Parkinson au Canada chaque année. 103 000. Nombre de cas de Parkinson au Canada. Source. National Endowment for the Arts. 32 % proportion des 35-54 ans qui vont danser au moins une fois par année aux États-Unis. 41 % proportion des 18-34 ans qui vont danser au moins une fois par année aux États-Unis. C'était « La musique comme thérapie », un texte de Mathieu Perrault, paru le 7 septembre 2025 dans La Presse.
Les queers qui ont changé le monde. Un texte de Patrick Brunette, paru le 25 août 2025 dans le magazine Fugue. Samuel Larochelle ne cache pas son enthousiasme en parlant de son nouveau bouquin. Mon espoir, c'est que ce livre-là se retrouve dans toutes les maisons, dans toutes les bibliothèques, pour que les hétéros et les queers découvrent l'impact immense que les queers ont eu sur l'histoire et sur le monde. Sans ces gens-là, le monde dans lequel on vit n'existerait pas tel qu'il est. L'auteur, déjà à son 17e ouvrage, a la conviction que chaque histoire, chaque parcours mérite d'être raconté. Et c'est le point de départ de son nouveau livre, « Les queers qui ont changé le monde », une œuvre vivante, percutante et pleine d'audace. Un ouvrage de référence qui souhaite faire éclater les préjugés et montrer que les personnes LGBTQ+ ne sont pas que de flamboyants artistes. Les queers ne sont pas confinés, par exemple, à des artistes exubérants, lance Samuel. Il est convaincu que le rôle des personnes queer a été et est toujours bien plus vaste qu'on ne le pense. Faire une sélection parmi toutes les personnes n'a pas été une mince tâche. J'ai choisi les personnes qui avaient le parcours le plus parlant dans différents domaines, sportifs, scientifiques, affaires, politiques et artistes. Une variété qui est essentielle pour la jeune génération. C'est important de montrer qu'on peut être partout, parce que lorsqu'on manque de modèles en tant que jeune LGBTQ+, on ne s'imagine pas faire son chemin vers un métier si on n'a jamais vu quelqu'un qui nous ressemble le faire avant nous, dit-il en donnant par exemple Farah Alibé, ingénieur en aérospatial ayant un parcours qui pourrait en inspirer plus d'une. Déconstruire les idées reçues et briser les plafonds de verre. L'ouvrage présente près de 70 profils complets et aborde le parcours de 150 personnes queer. Mais attention, ce n'est pas un dictionnaire. C'est un ouvrage de référence funky, lance Samuel. Avec de l'humour, des prises de position et plein d'infos hyper intéressantes. Ce n'est jamais long. Ça va d'une ligne à deux pages par personne. Samuel Larochelle a choisi les parcours les plus percutants, les plus inspirants. Il a voulu montrer la diversité des personnalités, mais aussi l'étendue de leur réalisation. Pour Samuel, il était primordial de faire sortir de l'ombre les femmes, les personnes trans, non-binaires et de couleur. Il donne en exemple le cas de Harvey Milk, souvent présenté comme le premier politicien ouvertement gay à avoir été élu. Ce n'est pas vrai. Quelques années avant lui, il y a eu deux femmes à deux endroits des États-Unis qui ont été élues, Kathy Kosachenko et Elaine Noble. Un choix éditorial qui vient rééquilibrer le portrait en donnant de la place à des histoires trop souvent ignorées. Le livre rend hommage à des figures emblématiques, comme la joueuse de tennis Billie Jean King. « Une petite crise pleine d'audace », s'exclame Samuel, mais aussi à des personnalités plus méconnues comme Christine, la reine de Suède, une femme qui a osé défier les conventions du 17e siècle. Il y a aussi ce médecin trans, Alan L. Hart, qui a été un pionnier de l'usage des rayons X pour dépister la tuberculose, sauvant ainsi de nombreuses vies. C'est ironique, alors qu'il y a tellement de gens en 2025 qui souhaitent la mort des trans et des non-binaires, de réaliser qu'il y a une personne trans qui en a sauvé des millions. De l'art à la science, la diversité des modèles. Le livre nous entraîne dans une multitude de domaines et d'époques où se rencontrent des personnalités connues d'ici et d'ailleurs. Elton John, Yannick Nézet-Séguin, Laurent McCutcheon, Ellen DeGeneres et d'autres moins connus, comme l'activiste Alicia Garza, cofondatrice de Black Lives Matter, et la chef de l'État islandais Johanna Sigurðardóttir, ou encore l'infirmière et statisticienne Florence Nightingale. J'ai vraiment découvert plein de mondes fascinants en faisant mes recherches. Et pourquoi terminer ce bouquin avec le portrait de Leonardo da Vinci? À cause du flou qui entoure da Vinci, puis pour laisser une porte ouverte de réflexion sur son homosexualité présumée. Je trouvais ça intéressant de conclure avec lui, puis parce que c'est probablement la personne, si elle est effectivement queer, qui a eu le plus d'impact sur la planète avec ses inventions et son art, conclut-il. Je lance une dernière question à l'auteur qui est aussi journaliste pour le magazine Fugue. Et si tu avais la chance d'interviewer une de ces personnes, vivante ou décédée, laquelle serait-ce? Je challengerai Tim Cook, directeur général d'Apple, qui vient d'abandonner les mesures d'équité, de diversité et d'inclusion parce qu'il suit Trump. J'aimerais beaucoup discuter avec la joueuse de soccer Megan Rapinoe, qui a énormément de cran et qui a tenu tête à Donald Trump après avoir gagné la Coupe du Monde en disant « Si on gagne, je n'irai pas à la Maison-Blanche ». Puis elles ont gagné et elle a tenu parole. Info. Les Queers qui ont changé le monde, de Samuel Larochelle, édition Québec-Amérique. C'était « Les Queers qui ont changé le monde », un texte de Patrick Brunette, paru le 25 août 2025 dans le magazine Fugue.
Le ramoneur qui manque de cheminée. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 8 mai 2025 dans le magazine Québec Science. L'habitat urbain du martinet ramoneur se transforme. Ce petit oiseau saura-t-il regagner la forêt? Je suis un petit oiseau migrateur noirâtre aux ailes en forme de boomerang. J'adore tant voler et virevolter que je me pose rarement. On dit que je parcours l'équivalent de 50 fois le tour de la Terre en une année. Au vol, je dévore tous les insectes qui me tombent sous le bec. Étant une créature de l'air, j'ai des pattes qui, au gré de l'évolution, sont devenues courtes et faibles, si bien que je n'arrive qu'à me percher sur des surfaces verticales, utilisant ma queue comme troisième point d'appui. Pendant longtemps, j'ai trouvé refuge dans les arbres creux, à l'abri du vent, de la pluie et des prédateurs. Puis tout a changé. Au XVIIe siècle, une vague humaine déferle sur l'Amérique du Nord où je passe mes étés. Ces hommes et ces femmes commencent à couper les vieilles forêts peuplées d'arbres sénescents où je loge. Ils et elles érigent des bâtiments de bois et de pierre. Heureuse surprise, leurs cheminées, inutilisées durant la saison chaude, se révèlent idéales pour m'abriter et inidifier. Je m'entiche tant que j'abandonne, bon gré mal gré, le bois mort. Je deviens le martinet ramoneur. Une nouvelle vie commence. Chaque été, avec mon partenaire de couple, nous bâtissons un nid sur la paroi intérieure de notre cheminée. Notre salive permet de coller les brindilles. Nos oisillons, peu après leur naissance, grimpent sur le mortier, les moellons ou la brique jusqu'à l'embouchure de la conduite où nous les nourrissons d'insectes. Vers le mois d'août, je me réunis avec mes semblables pour entreprendre notre grande migration vers l'Amazonie. Chaque soir, notre nuée cherche une grande cheminée, celle d'une église, d'une manufacture ou d'une bibliothèque, pour y passer la nuit. Cette adaptation nous réussit bien. Au début du 19e siècle, le naturaliste franco-américain Jean-Jacques Audubon nous admire à Sainte-Franciville, en Louisiane, au moment de la migration. Un soir, il compte un millier d'entre nous pénétrer dans une seule cheminée. Déjà, à son époque, nous observer en forêt est une rareté. Dans « Birds of America », Audubon relate qu'au Kentucky, on le met sur la piste d'un immense sycomore, de 8 pieds de diamètre, mort depuis belle lurette et fréquenté par des martinets. Il décide d'investiguer. Nous voyant entrer nombreux dans les fissures de l'arbre au coucher du soleil, il pratique une ouverture dans le tronc pour jeter un œil à l'intérieur. Par une belle nuit, l'ornithologue rampe jusqu'à la cavité centrale et découvre des parois tapissées d'oiseaux. Éberlué, Audubon estime notre nombre à 9000. Le siècle plus tard, nous, Martinet ramoneurs, sommes en eau trouble. Au Canada, notre population a fondu de 90 % en 5 décennies, selon les relevés officiels. Nous sommes moins nombreux à nidifier au Québec que nous l'étions, sous les yeux d'Audubon, à nous abriter dans un seul arbre creux. Aux États-Unis aussi, nous nous éteignons à petit feu. Bien sûr, je n'échappe pas aux troubles que vivent tous les oiseaux insectivores. L'industrialisation de l'agriculture et les pesticides me creusent le ventre. Le changement climatique dérègle mes habitudes. Et comme c'est le cas pour les autres volatiles, mon habitat se dégrade. Mais dans ma situation, cet habitat est devenu anthropique. Et les raisons de sa déchéance sont bien particulières. À partir de la deuxième moitié du 20e siècle, les humains ont délaissé le bois de chauffage, préférant utiliser le mazout, le gaz et l'électricité. Peu à peu, les vieilles cheminées ont disparu du paysage. Celles qui restent ont été grillagées, bouchées, gainées de métal. Depuis 2007, le gouvernement du Canada juge que nous sommes une espèce menacée. Voulant protéger notre habitat, il a interdit, durant la saison estivale, de ramoner les cheminées où nous nichons. Au Québec, la ville de Mont-Saint-Hilaire répertorie et protège les cheminées où nous pouvons loger. Tant mieux, mais les foyers traditionnels demeurent une espèce en voie de disparition. Ce printemps, lors de mon passage migratoire dans le sud du Québec, un humain m'a attrapé au filet, puis a posé un émetteur sur mon plumage. Ce biologiste veut découvrir le lieu exact de mon estivage. Les scientifiques pensent que, faute de cheminée, certains des miens nidifient en forêt. Pourrais-je retourner couver mes œufs et élever mes petits dans un arbre creux? Les ornithologues pensent qu'à long terme, c'est l'unique avenue vers le rétablissement de mon espèce. Pour cela, les humains devront laisser en paix les forêts anciennes afin qu'y réapparaissent de gros chicots pouvant m'abriter. Même si j'ignore comment mes frères et sœurs nichent dans la nature, je pourrais l'essayer cet été. Qu'ai-je à perdre? C'était le ramoneur qui manque de cheminée, un texte d'Alexis Riopel paru le 8 mai 2025 dans le magazine Québec Science.
Les affres climatiques de l'asphalte. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 mai 2024 dans La Presse. Question de Jean Pellerin, un lecteur. Est-ce qu'on va modifier le type d'asphalte des rues à cause des changements climatiques? Oui, mais au Canada, cela risque de ne pas être suffisant pour éviter des routes plus crevassées qu'auparavant. Avec les changements climatiques, on doit avoir des bitumes qui résistent à des températures plus élevées, mais on doit conserver une résistance aux températures les plus froides, explique Alan Carter, ingénieur spécialiste de l'asphalte à l'École de technologie supérieure, ETS. Alors, l'asphalte va devoir résister à une plus grande plage de température. Ça va facilement être de 20% à 30% plus cher. Comme on l'a vu à l'hiver 2023, les changements climatiques vont aussi s'accompagner de réchauffements subis en hiver. On va avoir plus de cycles de gel et dégel. Ça affecte la durabilité de l'asphalte. Et en ce moment, on n'a pas d'outils pour quantifier la durabilité en fonction du nombre de cycles gel-dégel, souligne Alan Carter. L'asphalte est composé de 95 % de granules de pierre et de 5 % de bitume, un résidu lourd du pétrole. Les cailloux se foutent des changements climatiques, dit M. Carter. Ils deviennent plus chauds, plus froids, c'est tout. La température affecte la colle, le bitume. L'asphalte est caractérisé par un indice de performance, PG, qui indique la température maximale et minimale qu'il peut supporter. Dans le sud du Québec, il faut du PG5834, ce qui signifie qu'il peut supporter des températures allant de moins 34 à 58 degrés Celsius. Le sol est un réservoir thermique, explique l'ingénieur de l'ETS. Alors, il va se réchauffer en surface davantage que l'air parce qu'il se refroidit moins durant la nuit. Et l'hiver, la chaleur de la profondeur du sol va tempérer la température de surface de l'asphalte. Quand il fait chaud, l'asphalte prend de l'expansion, et quand il fait froid, il se contracte. Ça crée un mouvement qui peut créer des fissures si le PG est dépassé. Et il y a une limite au nombre de cycles thermiques chaud-froid que l'asphalte peut supporter. Après, il devient moins élastique et des fissures apparaissent lors des changements de température trop brusques. Comme il y a davantage d'augmentations et de chutes brusques de température, particulièrement l'hiver, on travaille à mettre au point un indice qui mesurerait la capacité à supporter plus ou moins de cycles de température, nous dit Alan Carter. Ces changements de température hivernaux expliquent pourquoi nos routes sont plus crevassées qu'en France, par exemple, selon M. Carter. Les changements climatiques vont amener des hivers moins rudes en moyenne, mais avec plus de changements de température. Alors, finalement, ça va être plus dur pour l'asphalte. Le dépassement de la température maximale du PG crée des ornières. Pour les températures sous le minimum du PG, des fissures thermiques apparaissent perpendiculairement au sens de la circulation. Elles surviennent à des intervalles correspondant à la largeur de la rue. Pour une rue de 1 km, qui fait 20 mètres de large, il va donc y avoir 50 fissures séparées par 20 mètres chacune. En savoir plus? Source: Transport et mobilité durable, Québec. 77,4%. Proportion des chaussées de responsabilité provinciale au Québec qui étaient en bon état en 2022. En 2006, cette proportion était de 63,2%. C'était « Les affres climatiques de l'asphalte », un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 mai 2024 dans La Presse.